bien, je manque d'assurance. Et j'ai vraiment si peur.
J'en ai plus qu'assez, Dieu. Je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter ça. Si je n'ai pas de réponse d'ici demain, je crois que tout sera fini pour moi. Non, pousse!
Hébreux 5, 13. Il dit, car quiconque en est encore olé est évidemment inexpérimenté et non qualifié dans la doctrine de justice. Vous comprenez ça? Car quiconque en est encore olé. Quel est le lait de la parole? Tu es merveilleux, je t'aime, Dieu a un bon plan pour ta vie, il n'y a pas de mal à ça, tu es la meilleure personne sur terre, ne t'inquiète de rien, je m'occuperai moi-même de tout, tout va bien, tout va bien. C'est le lait. Les biberons. On doit écraser tous ces aliments avant de les donner au bébé. Ils ne peuvent pas avaler de gros morceaux de quoi que ce soit. Mais comme la plupart d'entre vous le savent, je ne suis pas très bonne en dessert. Nous avons, il y a longtemps, dépassé les bananes et les pêches écrasées. Nous distribuons de la viande ici. Amen. Grandissez, surmontez-vous, entrez dans le programme. Sachez qui vous êtes en Christ. Résistez au diable. Ne laissez pas ce que les gens pensent de vous gouverner votre vie. Ne passez pas votre vie dans l'amertume et le ressentiment contre quelqu'un qui s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché. Arrêtez de vivre d'après vos sentiments. Arrêtez de vivre n'importe comment. Renouvelez votre pensée. Faites vos recherches et étudiez la parole vous-même. Ne soyez pas un chrétien qui s'assied sur un banc et veut que les autres le nourrissent à la petite cuillère tout le temps. Je vais aller parler à ces gens. Ils sont plus contents de ce que je dis que vous. N'est-ce pas vrai? Il y a une dame qui m'a dit, quand j'ai d'abord commencé à essayer de t'écouter, je ne pouvais supporter qu'un seul côté de... C'était à l'époque où nous utilisions des cassettes. Et quand on arrivait à la fin d'un côté, on devait la retourner. Et je me rappelle une dame qui m'a dit... Quand j'ai commencé à essayer de t'écouter, je ne pouvais supporter qu'un côté à la fois, car au moment où j'arrivais à la fin du premier côté, j'étais si furieuse contre toi que je voulais te tordre le cou. Puis j'attendais quelques jours pour me calmer et j'écoutais le second côté. Mais vous voyez, que ce soit clair, nous ne pouvons pas tourner autour du pot toute notre vie, amen. Tôt ou tard, chacun de nous doit prendre ses responsabilités et surmonter notre petit moi chéri. Dieu s'attend à beaucoup de nous, mais la bonne nouvelle est qu'il ne s'attend jamais à ce que nous produisions quelque chose qu'il ne nous a pas d'abord donné. Merveilleux! Il me donne la miséricorde, puis dit « Sois miséricordieuse ». Il m'aime et ensuite il me dit « Aime les autres ». Il me pardonne d'abord et ensuite il me dit « Pardonne aux autres ». Il me justifie devant lui et ensuite il me dit « Comporte-toi comme il faut ». N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne vous équipe pas pour pouvoir faire. Que tout le monde dise « J'ai tout ce qu'il faut ». Et vous l'avez. Vous l'avez, vous l'avez. Bien, maintenant. La Bible dit dans Philippiens 2, 12 et 13, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Je ne vais pas prendre le temps d'ouvrir là car je veux avoir le temps de m'embarquer dans d'autres choses que je veux partager. Mais Paul parle de grandir et de faire des progrès et il encourage les chrétiens là, à Philippe, à faire ce qu'il appelle « travailler à votre salut avec crainte et tremblement ». Maintenant, si vous ne comprenez pas beaucoup de choses dans la Bible, vous comprendrez ça de travers. Nous savons déjà d'Éphésiens 2, 8 et 9 que nous ne travaillons pas pour notre salut. Nous ne sommes pas sauvés à cause de quelque chose que nous faisons, mais seulement par la grâce et la miséricorde de Dieu. Comment donc pouvons-nous travailler à notre salut? Eh bien, ce dont il parle est que quand nous sommes régénérés, Dieu fait quelque chose en nous, au tréfonds de nous. Dans notre homme spirituel, Dieu plante une graine de tout ce que Dieu est. Et tout le reste de notre vie jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Notre travail est de coopérer avec le Saint-Esprit pour laisser ce grand don de Dieu qui est dans chacun de nous pousser et produire tant de fruits que finalement tout le monde peut le voir transparaître dans nos vies. Ce n'est plus cette petite chose secrète. Je suis sauvée. J'irai au ciel quand je mourrai. Mais personne ne le saura pendant que je suis ici. Jean 3, 9. Peut-être que vous devez fuir du bâtiment quand vous verrez ceci. Je ne sais pas si vous pourrez le supporter ou pas. Maintenant, j'ai ici quelques graines. Ça, c'est une graine de pêche. Ça, c'est une graine d'avocat. Combien d'entre vous savent que si je plante une graine de pêche, je n'aurai pas un avocat? N'êtes-vous pas intelligent? Regardez ça, comme vous êtes intelligent. Et si je plante une graine d'avocat, je n'aurai pas une pêche. En fait, à l'intérieur de cette graine de pêche, il y a un péché. L'embryon d'un péché est dans cette graine. Mais tant qu'elle est comme ça à l'air libre, elle ne produira jamais rien. Donc, la Bible dit qu'à moins que la graine ne meure, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Maintenant, la mort arrive. Celle-ci n'est plus, ou celle-ci cesse d'être une graine quand elle devient enterrée. Elle est enfouie dans la terre et la chaleur de la terre, la pression de la terre, l'obscurité de la terre la fera ouvrir. La chaleur, la pression, l'obscurité, allez, va faire qu'elle s'ouvrira. Encore une fois pour comprendre ça. Le désert, la fournaise, la chaleur, l'obscurité d'être enterré. Allez maintenant, cette terre qu'on jette à l'appel au-dessus de nous. Oh, bonté divine. Fera finalement ouvrir cette graine et elle cessera d'être ce qu'elle est maintenant et de petits trucs en sortiront, de petites racines commenceront à venir et ça prend du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, des racines, des racines, des racines. Ces racines s'enfoncent dans cette terre, s'enfoncent dans cette terre et ensuite tout à coup, pas en haut, vous aurez poup, 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 poup. Oh, mon Dieu! Bon, êtes-vous prêts pour ça? 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas délibérément, consciemment et habituellement le péché. Il ne dit pas que nous ne péchons jamais. Il dit que si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes régénérés, nous ne pouvons pas délibérément, consciemment et habituellement pécher. Je péchais habituellement et de temps en temps, je faisais une gaffe et je faisais ce qu'il faut. Mais maintenant que je suis régénérée, je fais habituellement ce qu'il faut, mais parfois, je fais inconsciemment une gaffe et je fais ce qu'il ne faut pas. Et j'ai besoin de pardon et Dieu merci, je peux toujours l'avoir. Et je crois que l'année prochaine, à la même époque, je ferai moins de mauvaises choses que je ne fais en ce moment, mais je ferai toujours assez de mauvaises choses que j'aurai besoin de Jésus. Allez maintenant. Bon, restez avec moi. Quiconque est né de Dieu ne commet pas délibérément, consciemment et habituellement le péché parce que la nature de Dieu demeure en lui. Faites attention. Son principe de vie La semence divine, la semence divine, la semence de Dieu. Jésus est appelé la semence, L majuscule, S majuscule. La semence de Dieu demeure en lui. Et quand une semence de Dieu demeure en vous, tôt ou tard, vous devez produire Dieu dans votre vie. Vous devez produire un caractère pieux. Mais comme cette graine doit mourir, la Bible dit que nous devons mourir au moins. Nous devons nous enraciner dans l'amour de Dieu. Nous devons nous enraciner dans la foi. Nous devons nous enraciner en Christ. Nous devons nous enraciner dans la connaissance de qui nous sommes et nous enraciner dans la justice. Ça ne peut pas être une pensée passive. Joyce dit que nous sommes justifiés devant Dieu par Christ. Alléluia. J'espère qu'elle en reparlera un jour ou l'autre dans son programme télé. J'aime bien qu'elle en parle, ça me fait du bien. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous manquez d'assurance et que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes toujours la queue de tout, vous devez dire à ce moment-là, j'ai entendu cette femme dire quelque chose et quand elle a fait ça quelque chose, c'est déclenché à l'intérieur de moi. Mais je dois étudier ça davantage. Je dois fouiller et je dois l'étudier et je dois lire et je dois prier et je dois apprendre à me lever et à être la personne que Dieu veut que je sois. Personne ne peut vous remporter votre victoire à votre place. Vous devez la remporter vous-même. Mais quand vous aurez votre victoire, personne ne se réjouira à votre place non plus. Oh, si seulement je pouvais vous faire comprendre à quel point j'étais différente quand j'ai commencé et combien de milliers de fois j'ai voulu renoncer et abandonner. Vous ne savez pas ce que j'aurais donné pour que quelqu'un me dise et m'enseigne ce que je vous dis aujourd'hui. Je n'avais personne pour me le dire. Je l'ai finalement déterré par les livres et la Bible et en laissant Dieu s'occuper de moi et en faisant des milliers de tours autour de la montagne et en vivant dans le désert et en essayant de mourir au moins, etc. La semence divine de Dieu. Peut-on être plus clair? Quand vous êtes régénéré, voici ce qui arrive. La semence de Dieu est plantée dans l'utérus de votre esprit. Oh mon Dieu! Et littéralement, tout le monde, homme ou femme, est enceint d'une semence de tout ce que Dieu est. Comme quand la semence d'un mari est plantée dans l'utérus de sa femme, il y a une semence là de ce que sont ses deux parents. Et si cette semence est nourrie et si elle est soignée, elle donnera finalement naissance. Mais comme nous le savons tous, mesdames, il y a un peu de douleur entre la semence et la naissance. Amen. Il y a une petite chose qui s'appelle le travail avant l'accouchement. On l'appelle le travail et l'accouchement. Amen. Peut-être que certains d'entre vous sont dans cette étape de pousser en ce moment. Allez. Vous savez, quand vous pouvez à peine voir les petits cheveux du veteux sur la tête du bébé.
Et que vous pensez vraiment, ça va me tuer.
Je peux vous promettre, je ne viendrai pas à bout de ça. Ah! Je ne le ferai plus jamais tant que je vivrai. Et ensuite, un médecin qui n'a jamais eu de bébé vient vous dire... Vraiment, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous dis, pousse! Pousse! Et donnons naissance à un comportement un peu plus pieux.
Donnons naissance à un peu plus d'amour, à un peu plus de justice, à un peu plus de paix, à un peu plus de joie. Montrons au monde ce que veut vraiment dire être un enfant de Dieu. Et non pas ne cesser de dire
« Eh bien, je manque d'assurance. Et j'ai vraiment si peur. »
J'en ai plus qu'assez, Dieu. Je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter ça si je n'ai pas de réponse d'ici demain. Je crois que tout sera fini pour moi. Non, pousse !
La semence de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous baisser la tête et vous comporter comme si c'était la fin du monde si vous n'obtenez pas ce que vous voulez à l'instant où vous le voulez ? La semence de Dieu est en vous.
Vous devez savoir qui vous êtes. La justice de Dieu en Christ.
Tout ce dont vous aurez jamais besoin pour
être victorieux est déjà en vous.
Christ en moi, l'espérance
de la gloire.
Que tout le monde crie, « Il est en moi !»
J'aime vraiment 1 Jean 3,9. « Oh, bonté divine !» La semence de Dieu.
La Bible dit que nous devons être lavés de l'eau de la parole. Quand une semence est plantée dans la terre, elle doit être arrosée, 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 arrosée. C'est l'eau de la parole, selon Paul. N'est-ce pas intéressant qu'il l'appelle l'eau de la parole? Pourquoi? Parce qu'elle arrose la semence de Dieu.
Vous voyez, si je veux que cette graine devienne un avocat, je ne peux pas juste la planter dans la terre, je devrais l'arroser.
Eh bien, la semence de Dieu est à l'intérieur de nous, mais nous devons l'arroser. Nous devons l'arroser. Vous êtes arrosés ici aujourd'hui. Lundi matin, vous verrez mon programme et vous serez arrosés. Dimanche, quand vous irez à l'église, vous serez arrosés. Quelqu'un vous demande « Où vas-tu ? » Vous dites « Je vais m'arroser. » Je m'assèche un peu. 2 Corinthiens 3, 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, verset 17, 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Non pas le légalisme, la liberté. Et ce n'est pas la liberté de pécher, c'est la liberté de ne pas avoir à pécher. Oh, Jésus ! Verset 18. Et nous tous qui le visage dévoilé. Vous vous êtes jamais demandé ce que cela veut dire ? Et nous tous qui le visage dévoilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transformés en la même image, d'un degré de gloire à un autre degré. Donc voici l'essentiel. Cela me montre Jésus. Tant que je regarde là-dedans, c'est comme un miroir. Et je vois Jésus. Et si j'arrose cette semence avec cette parole, je serai transformé et non pas conformé. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Transformé, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Je serai transformé à son image, par degrés minuscules de croissance et de gloire. Ça n'arrive pas tout d'un coup. Apprenez à jouir de la gloire dans laquelle vous êtes et ne pas entrer dans la gloire de quelqu'un d'autre. Si vous faites 5 minutes de prière glorieuse chaque matin, ne laissez pas sœur super chrétienne vous condamner. Dites, c'est la gloire dans laquelle je suis en ce moment et merci, je vais jouir de ma gloire. Amen. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Je vais jouir du trajet. Donc, et ce truc de visage dévoilé? Et nous tous qui, le visage dévoilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Il y a donc une différence entre contempler avec un visage voilé et un visage dévoilé.
Eh bien, Joyce, dis-moi, de quoi parles-tu?
Bien, Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï après avoir pris la loi,
Son visage brillait tellement de gloire qu'ils ont dû le couvrir d'un voile afin de pouvoir le regarder. Maintenant, si la loi donne vraiment autant de gloire, combien plus de gloire y aura-t-il de la grâce sans la loi? Donc voici ce qu'il dit. Et vous savez, Paul parle aux Corinthiens qui ont vécu selon la loi. Ils savaient tout sur le voile. Et vraiment, ce voile veut dire que vous avez une ombre de comment est Dieu, mais vous ne voyez pas vraiment Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment voir Dieu par la loi. Vous devez le voir par Jésus-Christ, qui est son don de grâce. Donc, il nous dit que nous devons mourir à la loi et mourir à toutes ses demandes et que nous devons venir à Christ qui nous dit, « Eh bien, je vous aiderai à être ce que je veux que vous soyez. Je n'exige pas que vous soyez quelque chose comme une chose légaliste, mais je vous aiderai en plantant en vous une semence de tout ce que je veux qu'il y ait en vous et ensuite je vous aiderai à grandir. » Mais nous devons arrêter de voir tout ce que nous voyons comme étant une nouvelle réglementation. Nous devons venir le visage dévoilé. Laissez-moi vous donner un exemple. Parfois, je fais ça. J'ai une jeune mariée et un jeune marié qui sortent en grand uniforme. Robe blanche, smoking et tout ça, et la jeune mariée a son voile. Et je dis, je vous déclare maintenant, mari et femme, tu peux embrasser la mariée. Eh bien, cela représente l'intimité avec Christ. Embrasser la mariée, l'intimité avec Christ. Et si la jeune mariée refusait d'enlever son voile? Vous n'êtes pas avec moi, n'est-ce pas? J'ai quelques personnes qui sont comme... Et si elle refusait d'enlever son voile? Non! Ne vous inquiétez pas, revenez pour en avoir plus ce soir. Mais c'est comme si nous refusions de lâcher la loi, la réglementation et d'être menés par le Saint-Esprit. Si nous refusons de lâcher ce que nous croyons que nous pouvons faire et de compter complètement sur ce qu'a fait Christ. C'est comme la jeune mariée qui refuse d'enlever le voile pour ne jamais avoir l'intimité. Qu'est-ce qui arrive à l'instant où le pasteur dit « Je vous déclare maintenant mari et femme » Le voile est enlevé. Oh, allez! Voulez-vous continuer à sortir avec Jésus toute votre vie ou êtes-vous prêt à l'épouser? Oh, maintenant, allez, je peux aller plus loin avec ça. Vous n'êtes pas légalement censé avoir des bébés jusqu'à ce que vous vous mariez. Donc, Dieu ne peut pas produire du bon fruit par vous, ces bébés, avant que vous ne l'épousiez. Enlevez ce voile de la loi. Commencez à apprendre à être mené par le Saint-Esprit. Eh bien, vous feriez aussi bien de vous lever et de crier, « J'ai fini, allez !» Je suis allé trop loin. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis ici aujourd'hui? Vous voyez, il est temps de dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Il m'aime vraiment. Je ne vis pas sous la loi, mais je vis sous la grâce. Je me lève tous les jours et je fais de mon mieux. Et même à ce moment-là, je fais des erreurs. Mais devinez quoi? Dieu me pardonne. Nous sommes mariés. Je partage ma vie avec lui. Amen. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Allez, rendez gloire à Dieu. Vous savez, le premier pas pour surmonter le manque d'assurance, c'est de croire ce que dit de nous la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile à faire, car nous ne le ressentons pas toujours. Peut-être que nous ne ressentons pas l'amour, nous ne nous sentons pas victorieux et sûrs de nous. Mais si vous pouvez commencer par la foi, et la foi prend la place des sentiments. Nous avons la foi quand nous n'avons pas la preuve des choses que nous voulons. Si vous pouvez commencer à croire par la foi que la parole est vraie pour vous, que Dieu vous aime, qu'il a un bon plan pour votre vie, que vous pouvez être sûr de vous en lui, que vous avez l'autorité sur le diable et que la puissance de Dieu demeure en vous et que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous commencerez à avoir une victoire énorme dans votre vie. Vous savez, nous sommes tous dans un voyage. Nous commençons quelque part et nous nous dirigeons quelque part. Mais il y a un milieu et parfois le milieu est plus long que nous ne voudrions qu'il soit. Et donc nous vous offrons l'enseignement de la parole de Dieu pour vous aider à traverser ce milieu où c'est parti difficile de la vie.